Les enfants ont un mot à vous dire sur Radio Django.
Radio Django. Radio Django. Radio Django.
Ce mercredi 20 novembre, en direct du musée historique de Lausanne, nous fêtons les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, en collaboration avec la ville de Lausanne, et c'est sur Radio Django.
Raconte-moi les droits de l'enfant.
Radio.django.fm. Collaboration avec Pousse Urbaine et la ville de Lausanne, les enfants ont un mot à vous dire.
Les enfants ont un mot à vous dire, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et je précise que tous les morceaux de musique que vous entendez ont été choisis par des enfants et par des jeunes. Alors, il est maintenant 14h01 et 32 secondes et nous allons faire le petit résumé de l'heure. Nous avons encore 3 heures d'émission, mais je vous dis juste qu'à 14h10, nous avons l'interview d'Estelle Papeau, secrétaire générale de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers de la ville de Lausanne. Et à 14h36, très précisément, les jeunes eux-mêmes intervieweront la doctoresse Roberta Ruggiero, qui est chercheuse au Centre interfacultaire des droits de l'enfant et experte en droits de l'enfant. Il est 14h02 maintenant, on continue en musique pour la suite.
Thank you. sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. Je dis aime, aime, aime.
Radio Django à Lausanne et ailleurs sur radio.django.fm.
Waka Waka de Shakira. On est tous en train de danser autour de cette table. Toutes, nous sommes que des femmes autour de cette table. Et tout de suite, nous recevons la secrétaire générale de la direction de l'enfance, de la jeunesse, des quartiers de la ville de Lausanne, Madame Estelle Papot. Madame Papot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc à la ville de Lausanne, comme on vient de le dire, mais vous êtes aussi active à Pro Juventute. Vous, donc, la ville de Lausanne a ce projet Pousse Urbaine qui, du coup, a monté un peu aussi toute cette émission avec nous. Et alors, en quelques mots, Pousse Urbaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, Pousse Urbaine, c'est un projet de la délégation à l'enfance qui l'a monté il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, avec des partenaires qui sont à la fois plate-bande et puis d'autres partenaires dans la communication.
Et alors, en résumé, le département, la direction dans laquelle vous travaillez, vous arrivez à nous dire un peu, pour situer pour les gens, qu'est-ce que ça fait, la direction de l'enfance, de la jeunesse, des quartiers, tout ça?
Alors, la direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers s'occupe principalement des prestations aux enfants, aux jeunes et à la population dans les quartiers. Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'évidemment, si l'école relève du canton, eh bien, tout ce qui est à côté de l'école, finalement, relève des communes. Et c'est ce que nous mettons en place. Donc, par exemple, l'accueil pour enfants en milieu scolaire, les garderies. On met aussi en place tout ce qui est les camps de vacances, les camps scolaires, tout ce qui est au niveau de l'animation socioculturelle, donc c'est-à-dire les centres socioculturels, les maisons de quartier. C'est une politique de la commune et elle le confie à un tiers pour la mettre en œuvre.
Et vous, donc il y a les places de jeu aussi qui rentrent en compte. Vous avez aussi des mesures plus spécifiques ou des mesures peut-être au niveau écologique, des études sur le trafic, des choses comme ça?
Au niveau écologique, on sensibilise les enfants, par exemple, dans les écoles, à travers les activités de sensibilisation à l'environnement. Donc tous les écoliers lausannois vont visiter des mesures de sensibilisation. Donc on a Madame Eau Propre, où justement on va voir comment fonctionne l'eau et l'eau buvable, potable, en ville de Lausanne. On a aussi Madame Poubelle. Alors, c'est pas toujours des dames, je me rappelle pas les noms de toutes les autres, en fait. Et effectivement, c'est d'aller se rendre compte comment fonctionne le tri des déchets, le ramassage, comment est-ce qu'on fait aussi pour brûler les ordures ou recycler. Et tous ces éléments, finalement, de sensibilisation sont donnés dans les écoles et c'est la ville de Lausanne qui met ça en place particulièrement avec d'autres services de la ville et c'est notre direction qui coordonnons. Donc ça, c'est une des mesures que l'on met en place à ce niveau-là. Puis après, on a à la fois des conseils des enfants, des conseils des jeunes qui eux-mêmes, parfois, soutiennent des mesures ou mettent en œuvre des mesures dans le domaine écologique.
Donc vous donnez la parole aux enfants, aux jeunes, de pouvoir en fait faire ce lien, on va dire, plus en associationnel, à remonter jusqu'à la municipalité en fait.
Exactement, c'est l'objectif finalement de cette direction, aussi des deux délégations, puisqu'on a une délégation à l'enfance et à la jeunesse, de pouvoir donner la parole aux enfants, de pouvoir les représenter aussi quand ils ne peuvent pas toujours s'exprimer, et de pouvoir leur faire une place en ville de Lausanne comme un citoyen et une citoyenne à part entière.
Et au niveau de la... Alors, aujourd'hui, on fête les 30 ans de l'acceptation de la signature, pas forcément de la ratification par tous les pays, mais de l'acceptation de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention, au jour le jour, comment elle rentre dans votre métier à vous ?
Tous les jours, les enfants ont des droits. Et nous essayons évidemment de pouvoir les soutenir dans l'exercice de ces droits. Que ce soit le droit d'aller à l'école, que ce soit le droit d'avoir des loisirs, que ce soit le droit de pouvoir s'exprimer, de pouvoir manger aussi à travers les cantines, à travers finalement des mesures, d'avoir l'accès à des soins, etc. Avec le service aussi santé et prévention qui fait partie de la direction. Donc tous les jours, c'est notre job aussi de pouvoir s'assurer que les enfants aient une place entière et qu'ils puissent participer pleinement à la société.
Et sur un ton peut-être un peu moins léger, on sait, on a tout souvent entendu peut-être aussi grâce au public français, on parle d'allocation souvent, mais si on parle pas d'argent, quelles sont les mesures que la ville met en place pour les enfants qui viennent de familles précaires, qui sont vraiment dans la précarité?
On a pas mal de fonds qui permettent d'aider ces familles, et ces familles, ces fonds, elles savent pas toujours comment y avoir accès. Et à travers finalement des assistants sociaux scolaires, à travers des travailleurs sociaux hors mur qui sont dans la rue aussi, à travers finalement les éducateurs, eh bien, à travers les centres sociaux, à travers socioculturels, à travers les maisons de quartier, là aussi, on a des professionnels qui peuvent aider ces familles et qui peuvent finalement les orienter pour être aidés. Donc les enfants issus de la migration ou en situation de précarité, eh bien, on essaye aussi de les détecter et de pouvoir leur offrir des conditions vraiment normales.
Est-ce que vous savez à peu près combien de personnes ont besoin de ces aides, particulièrement les personnes, les enfants qui viennent de familles migrantes? Il faut qu'elles soient acceptées à Lausanne d'abord.
Alors à Lausanne, il y a une particularité comme dans toute la Suisse, c'est-à-dire qu'au niveau des écoles, eh bien, on n'a pas les mêmes registres que finalement le contrôle des habitants. Et les deux registres ne parlent pas entre eux pour une seule et bonne raison, c'est-à-dire que tous les enfants sans papier peuvent être scolarisés et ça permet de ne pas devoir les dénoncer, de ne pas devoir dénoncer leur famille. Donc déjà, rien que là, il y a une accessibilité qui est importante et on arrive à connaître ces enfants-là. Au niveau des statistiques, on n'en a pas et l'objectif n'est pas toujours d'en faire. On prend plutôt des statistiques au niveau suisse et puis surtout, on n'essaye pas d'avoir de statistiques au niveau des quartiers pour ne pas finalement stigmatiser plus un quartier ou un autre, une population ou une autre.
Et si on prend alors le bureau de l'intégration des immigrés et votre département, votre direction, vous travaillez en collaboration par rapport pour ces familles-là ou comment ça se passe un peu concrètement ?
Absolument. Entre autres, à travers la politique d'animation socioculturelle, on a beaucoup de collaboration avec les centres socioculturels et les maisons de quartier où le bureau lausannois, finalement, des immigrés intervient et permet de mettre en œuvre à travers ces centres socioculturels et les maisons de quartier des actions. Donc, on collabore beaucoup sur ces points-là et puis d'autres points sur par exemple des fêtes que l'on met en place ou finalement des mesures pour les quartiers comme la caravane des quartiers dont vous avez peut-être entendu parler il y a longtemps où nous essayons finalement que le quartier essaye d'intégrer tout le monde et ait une vision aussi pour les personnes en situation de migration et essaye de faire des activités pour le mieux vivre dans le quartier.
Et alors, bon, quand on parle des droits de l'enfant, on imagine souvent, quand on dit enfant, on imagine de 4 à 12 ans environ. Il y a aussi des jeunes, puisque la Convention prend en compte tous ceux qui ne sont pas majeurs, indépendamment de la majorité. Donc, ce n'est pas forcément 18 ans dans tous les pays, mais on va dire tous ceux qui sont mineurs, finalement. Et puis, quand on parle des jeunes, on parle souvent aussi du métier, du choix du métier, apprentissage, gymnase. Et dernièrement, on voit, il y a le salon qui se tient maintenant, le salon des métiers, qui se tient jusqu'au 24 novembre. Et il y a apparemment une question, je ne pensais pas que c'était encore d'actualité, il existe toujours un peu cette tendance à stigmatiser les formations professionnalisantes où les jeunes ne choisiraient pas ces formations-là. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'ai bien entendu ? Est-ce que j'ai bien compris par rapport à ça ?
C'est un des soucis qu'on a plus particulièrement dans les pays dits latins, entre guillemets, où finalement la formation professionnelle n'est pas tant mise en avant que ça. Et c'est dommage parce que avec une formation professionnelle, et même pré-professionnelle, mais professionnelle, on arrive finalement à avoir accès aux études à travers les HES et on arrive parfois à avoir des situations de vie bien meilleures même que certains universitaires. Et on l'oublie beaucoup. Donc on essaye avec un certain nombre de projets. On est dans des projets comme Paysage éducatif Grand Veine où on a essayé de mobiliser un quartier pour finalement défendre la formation professionnelle et non pas tant pour présenter des métiers mais pour permettre aux jeunes de développer leurs compétences sociales qui leur permettront d'obtenir une place d'apprentissage. On leur a aussi permis de découvrir tous les entreprises, toutes les tous les employeurs qu'il y a dans le quartier de Grand Veine. Et là, on est très étonné de se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises sans qu'on se rende compte parce qu'on croit parfois que c'est des quartiers dortoirs, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est aussi des projets particuliers de la ville pour faire découvrir les entreprises de la ville, faire découvrir les compétences sociales dont on a besoin pour pouvoir finalement commencer un apprentissage et valoriser finalement cette voie professionnelle. Un des soucis que l'on a souvent en ville, entre autres, vous l'évoquiez à travers les migrants, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de réseau. Les parents ont peu de réseau, les jeunes ont peu de réseau, et à travers les finalement projets que nous développons, on essaye de faire que les réseaux soient mis à disposition de ces jeunes et puissent les créer pour qu'ils puissent trouver des places d'apprentissage. L'autre élément aussi, c'est que finalement, on a une mauvaise image de l'apprentissage parce que si on demande à des jeunes, et aux jeunes filles entre autres, eh bien, tout leur choix professionnel va se situer sur 4 ou 5 métiers. Et finalement, c'est peu parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et c'est aussi ça, de faire découvrir ces métiers en allant visiter des entreprises.
Et d'intégrer ça, il y a des cours, il y a est-ce qu'on en parle dans les écoles ? Personnellement, j'avais l'impression, moi, de devoir me débrouiller un peu toute seule pour inventer un métier ou pour découvrir quelque chose.
Alors, un des éléments dans lesquels nous avons évidemment participé, mais c'est le canton qui met en place principalement ça, c'est la découverte des métiers à travers l'approche du monde professionnel. Et pendant longtemps, cette approche du monde professionnel était presque réservée aux voies finalement inférieures et pas aux voies supérieures, celles qui allaient partir en bac ou en maturité. Et depuis quelques années, enfin, il y a aussi cette ouverture-là pour tout le monde en disant la voie professionnelle est aussi valorisée pour tout le monde et pas seulement pour une voie inférieure ou supérieure, mais tout le monde peut y avoir accès. Donc, ça dépend quelle voie vous avez choisi, vous.
Moi, j'ai choisi le gymnase à l'époque.
Et ben voilà. Et peut-être que finalement, avec un apprentissage dans le domaine de la radio...
Absolument, ça aurait été plus rapide.
Exactement.
Et alors, quels sont les prochains projets qui vous tiennent particulièrement à cœur dans votre travail ?
Dans notre travail au niveau des jeunes et des enfants, on est en train de développer un nouveau projet justement pour motiver le choix de la voie professionnelle pour les Lausannois. Et on est en train de développer un tel projet avec les directeurs d'établissements secondaires de la ville de Lausanne pour mettre quelque chose en place, particulièrement pour Lausanne. Vous évoquiez cette question, ce qu'on oublie, et là, même si j'aime peu les statistiques, un des soucis de la ville de Lausanne, à travers la question du manque de réseau, c'est que on aura plus de 60% des jeunes qui vont choisir une voie finalement qui ne leur conviendra pas et une voie qui est une voie d'attente pour beaucoup entre le CEMO, la transition finalement, et c'est un peu dommage. On essaye de trouver des mesures qui puissent améliorer finalement le choix des jeunes, surtout pour un choix professionnel. Donc c'est un des projets qui nous tient à cœur beaucoup.
Parce que ces transitions, c'est un peu de l'attente pour la personne, le jeune. Je pense que ça peut être des coûts pour les familles, ça peut être frustrant aussi.
Absolument, et même si nous, on nomme ça de l'attente, c'est très malheureux de voir, par exemple, la Confédération considère que c'est plus de l'attente, mais que c'est considéré comme une voie nouvelle. Et on voit, par exemple, Genève, qui était confrontée à la même situation que la ville de Lausanne, entre autres, a finalement choisi de ne plus s'arrêter à 16 ans, mais de continuer l'école jusqu'à 18. Et on sort de l'école plus tôt, ce qui est malheureux, puisque normalement, on pourrait sortir de l'école à 16 ans et trouver tout de suite une voie.
Mmh. Alors, Estelle Papeau, merci beaucoup d'être venue. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Direction de l'Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers à Lausanne. Et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi.
Merci et puis joyeux anniversaire à cette convention des 30 ans et bravo aux enfants lausannois.
Merci beaucoup. On continue avec AC/DC Back in Black.
Let's go. Quand je suis venu au monde, ma mère m'a tout donné. Une panse bien ronde, des pieds, des grands pieds pour marcher, pour danser. Mais la plus belle chose qu'elle ait pu me donner dans le fond, c'est à peine si j'ose le dire ces mots. Papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, plein de méchants qui n'en ont pas d'aussi grand, ils vont pas le montrer du tout, non. Un jour l'institutrice me dit, mais que t'as grandi. Je réponds sans malice, mais mon papayou est grandi lui aussi. Elle me dit, je suppose que c'est une plaisanterie. Mais en voyant la chose, elle pousse un cri. Oh, papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé, que j'ai vu depuis des années. Papayou, 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 lélé. Garde-le pour moi, ne le montre pas, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, plein de méchants qui n'en ont pas d'aussi grand, plein de badauds qui n'ont rien vu d'aussi beau et qui tiraient partout. Trop de joujoux, faut pas le montrer du tout, non. Un jour à Colamaya, une fille aux yeux bandés, le découvrant par hasard, me dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Depuis au village, toutes les filles de la région me demandent en mariage pour avoir mon papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Papayou, 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 lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier.
Et le prochain titre, on va écouter Gambi, Pop Pop Pop, c'est Samuel qui l'a choisi. Samuel, tu veux, dis-nous pourquoi tu as choisi ce titre-là.
Parce que déjà, je suis tombée sur cette chanson et j'ai bien aimé, parce que en plus, je sais pas, il y a... Je suis tombée dessus comme par hasard et c'était un copain à moi qui m'avait dit d'écouter ça et puis directement, j'ai direct aimé.
Alors, Samuel a beaucoup aimé. Moi, je ne connais pas. Et on verra si on vous laisse le choix de voir si vous aimez aussi. Donc, Gambi, pop, pop, pop. Merci, Samuel.
Un petit fume, un grand lâche, ça devait rien dire, les petits veulent du respect. Tu fais chaud, tu restes pas à gâte. La boca, j'ai ralasse la boca. J'ai cramé l'enveloppe, maintenant j'ai plus Warda. Ali, quand t'es à Capuco, je suis défoncé, je mets les couettes de Puka. Puka, Puka, danse le Mapuka. Il me faut des bonbons, je dois passer chez le Pat-4. Alors, Apu, comment va l'ami? Mets-moi un mélange, garde le reste, c'est l'ami. Il sert les craquettes de la chapelle. Je réponds pas quand les meufs m'appellent. Y'avait pas un, j'avais la dalle.
Tu dis que tu vends, mais tu la vends juste pour fumer. Et qu'un client allait n'achat va te défoncer. À nous tu mens, mais moi je t'ai remonté. Hein?
J'suis dans le bloc, bloc dit le caché dans le froc, froc. On bosse au black, black, on fait des sous dans le bac.
Y'a de la drogue à d'Acapulco, c'est de la bonne jaune fraîche comme du pulco. Vu la qualité, j'en mets un poquito. On arrange personne, même si t'es le poteau. Boum boum dans la couette, j'fais du tam tam, j'tire ses couettes. J'm'invite à ta fête, vas-y j'débarque, j'arrive tout de suite. J'ai pas de go, et ma go a pas de gars. Si t'es plein, on pas gaffe, et c'est pas grave. Si t'as pas nous, on donne, t'as besoin de téléphone. Depuis que j'ai 60K, les gratteurs veulent des pubs.
l'avant juste pour fumer. Et qu'un client allait Nacha va défoncer. À nous tu mens, mais moi je t'ai remonté. Hein?
J'suis dans le bloc, bloc dit que caché dans le froc.
Radio Django à Lausanne et ailleurs sur radio.django.fm.
Hey. Je fais mes affaires, le solitaire. Fuck le marine, fuck le commissaire. Je mets des tarifs, mais je suis prolétaire. J'ai jamais mis le genou à terre. Je fais le job, j'hésite pas. Niso, je ne suis pas comme les autres, moi et mon équipage. On a fini pirate par défaut. Bougou, ta ma chauffrait, tu vas mordir dans la cuisine posée à la Sanji. Tes plats sont plus mauvais qu'à la cantine. Ton peur à ne vaut même pas un centime. Je me salis pas les mains, j'ai les pieds plus aiguisés qu'un couchlas. Je n'ai peur d'aucun humain, je les élimine tous en un couchlas. Sur mon dos, je les entends parler beaucoup pour l'instant. Je m'entraîne comme Vegeta et Goku. J'en ai pas la part, on s'en est fait, mais ça coule dans mes veines. Mon iso, je suis un Kaizo. Je parle la mixture, mais j'ai la recette. Enfin du bitume deviendra fuchsia. Je prépare la mixture, où j'ai la recette. Enfin du bitume deviendra fuchsia. Pour l'instant je suis dans la cuisine comme Sanji. Pour l'instant je suis dans la cuisine comme Sanji. Pour l'instant je suis dans la cuisine comme Sanji. Pour l'instant je suis dans la cuisine comme Sanji. Pour l'instant je suis dans la cuisine comme Sanji. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanji. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanji. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanji. Sanji. Je suis venu sonner le game, bitch. Ma go te fait saigner du zen, bitch. Accompagné de mes frères au check sur un concert, je suis resté le même, bitch. Je la diff comme un colonel corse. Je la diff, faut que le pogo pète fort. Bavons sur tous les terrains, ma nègre. Je vais même finir dans l'import-export. Mais bon, j'aime trop la cuisine. Quand je retourne au four, no. Sony m'a dit au boulot. J'ai préparé des missiles.
J'suis dans la cuisine comme Sanji. Cuisine comme Salve. Devant cette bitch, deviens sensible. Potion magique dans mon sac. Et j'suis dans la cuisine comme Sanji. Cuisine comme Salve. Devant cette bitch, deviens sensible. Potion magique dans mon sac.
Si j'marre ici, c'est la vie. Oui, c'est le mec. J'suis comme Sanji, pas de chichi, je les aime tous. J'suis sous-codé, j'bois ma codé, j'roule en backwood. J'veux m'envoler, j'veux décoller, oublier que j'dois.
Pour l'instant j'suis dans la cuisine comme Sanji. 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 Sanji.
Merci de nous avoir rejoints sur Radio Django en collaboration avec Pousse Urbaine. Nous sommes toujours en direct du Musée historique Lausanne et nous sommes rejoints dans le studio par Lucas. Bonjour.
Bonjour.
Lucas qui a 15 ans et Nina qui a 10 ans. Bonjour Nina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez donc interviewer la doctoresse Roberta Ruggiero. Bonjour Roberta.
Bonjour.
Alors avant de commencer l'interview, je précise, Roberta Ruggiero, vous êtes collaboratrice scientifique au Centre interfacultaire en droit de l'enfant à l'Université de Genève. Vous êtes juriste de formation et vos recherches se centrent sur les droits humains, particulièrement des enfants et des jeunes. Alors sans plus tarder, Lucas et Nina, vous avez des questions à poser à Dr Ruggiero. Vous avez l'antenne.
Pourquoi travaillez-vous pour les droits de l'enfant ?
Ça, c'est une très belle question. Et effectivement,
C'est-à-dire, je n'ai jamais fait une réflexion sur le pourquoi. Je peux vous dire, quand j'ai rencontré les droits des enfants dans ma vie, alors j'étais un étudiant à l'université, je me suis retrouvée à faire mes études à la faculté de droit à Birmingham, en Angleterre. Et là, j'ai eu la possibilité de commencer à faire une étude sur le droit à l'autodétermination, au traitement médical, médicaux. Auprès des ados en particulier. C'était pour un tranche d'âge entre les 12 et les 18 ans. Et là, j'ai réalisé qu'effectivement, les enfants, il y avait beaucoup de marge d'activité d'analyse parce que les enfants, ils n'avaient pas la possibilité de déterminer ou de décider directement de se soumettre à des traitements dans les hôpitaux.
Ok. La deuxième question, plus globale, les droits des enfants, c'est quoi ?
Les droits des enfants, c'est une catégorie spécifique, spécialisée, des droits humains. Alors, il y a une catégorie très générale, très basse, qui sont les droits humains reconnus à toutes les personnes. Et pour les enfants, il y a une catégorie de ces droits qui s'adressent exclusivement aux personnes entre les 0 et les 18 ans. Sont reconnus et identifiés dans un document qui s'appelle la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a été adoptée, ça fait aujourd'hui 30 ans, le 22 novembre 1989.
Ok, et ils nous servent à quoi concrètement ces droits ?
Ça, effectivement, à nouveau, c'est une question très très pertinente. Hein. C'est avoir un droit, ça veut dire avoir un outil. Un outil de garantie, de protection. Avoir un droit, ça veut dire j'ai la possibilité de demander, je sais pas, accès à un service, à l'éducation, à la santé, à les soins dans les hôpitaux, parce que j'ai un droit qui m'a été reconnu par la loi. Le droit à avoir un nom, par exemple, une nationalité. Le droit nous donne la possibilité d'imposer, à les États, aux gens autour de nous, même à vos parents. Hein. Je ne devrais pas le dire, moi je suis un maman aussi, mais ça c'est, c'est un arme, ça peut devenir. Ça vous donne la garantie de pouvoir d'être protégé, de pouvoir participer à beaucoup de choses dans votre vie.
Ok, et comment c'est possible que ce sujet soit si peu connu.
Il est connu ou il n'est pas connu ?
Il n'est pas connu.
Pardon, c'est bon. Il n'est pas connu. À nouveau, c'est une question qui demande beaucoup de réflexion. Je connais beaucoup de personnes, d'adultes, qui travaillent dans ce domaine et qui s'occupent pour les droits et avec les droits des enfants. Mais c'est vrai qu'auprès des enfants, il y a encore beaucoup de travail à faire pour le faire connaître. Je peux vous dire que là, aujourd'hui, je vous ai amené un petit cadeau. Parce qu'il y a un organisme, un ONG, qui aujourd'hui a publié, qui s'appelle Child Rights Connect, qui aujourd'hui a publié une version de la Convention relative aux droits des enfants dans une version child-friendly. Diana, comment on le dit ça?
Une version qui est abordable par les enfants, qui est adaptée aux enfants.
Même si vous comprenez beaucoup de choses mieux que les adultes, je dirais, mais ils vont faire une version de la convention avec aussi des dessins et des explications. Il faudrait effectivement faire connaître mieux et plus.
Et que fait la Suisse contre la maltraitance envers les enfants en Suisse ?
La Suisse, comme tous les États, ils font beaucoup de choses. Je dis, elle a... Avant tout, c'est la signer, cette convention de l'ONU qui protège les droits des enfants. Après, au niveau de l'État, il y a des politiques, des interventions qui s'adressent à vous. Il y a beaucoup d'initiatives qui essaient de mettre en place des mesures qui vont vous protéger par rapport à la violence et la maltraitance dans les écoles, dans la famille, dans la rue, parce que malheureusement, ça se passe partout. Après, vous êtes un pays à structure fédérale, alors il y a plusieurs, je dirais, actions et interventions qui se font à différents niveaux, au niveau des cantons, au niveau des communes, et à suivre.
Pourquoi en 2019 y a-t-il encore des enfants exploités dans le monde ?
Il y en a comme... vous savez, on dit toujours que la Convention sur les droits des enfants, c'est la convention plus signé, ratifié par les pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a tous les pays du monde qui ont ratifié et signé ce document. Ils se sont engagés à respecter ces droits. Et on dit toujours que c'est le document plus signé, plus ratifié, mais en même temps, c'est le document plus violé.
Le moins respecté ?
Le moins respecté. Moi, ça, j'aime bien. Mais si je fais une comparaison avec les autres conventions de l'ONU sur les droits de l'homme, mais ils sont autant mal appliqués, peu respectés que celles-ci. Il y a encore des violations aujourd'hui, des formes d'exploitation des enfants, parce que le monde, il n'est pas idéal, il est imparfait.
Tout à fait. Imparfait.
Et dans beaucoup de pays aujourd'hui, pour les enfants, travailler par exemple, ça reste la seule possibilité de survivre.
Je reviens sur ce que vous venez de dire, comme quoi tous les pays ont signé la Convention des droits de l'enfant, mais les États-Unis n'ont toujours pas signé cette convention. Comment ça se fait ?
Mais ça se fait. Et Diane, est-ce que tu aimerais répondre, toi, à cette question ?
Transparence, donc, je ne suis pas bénévole Django pendant le 100% de mon temps. Je suis également collaboratrice scientifique à l'Université de Genève. Et Roberta Ruggiero est une collègue de bureau et une collègue de travail précieuse. Effectivement, Lucas, moi, j'avais longtemps travaillé sur cette thématique, de savoir pourquoi est-ce que les États-Unis, pays prospère, est historiquement parlant leader dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas ratifié la convention ? Réponse courte, il y a une polarisation totale politique aux États-Unis aujourd'hui qui existe bien avant 2019 ou 2015, et nos politiciens fédéraux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Simplement sur la désirabilité de la ratification. Tous sont bien évidemment d'accord sur le fait que tous les enfants devraient aller à l'école et devraient avoir accès aux hôpitaux et devraient ci et devraient ça. Toujours est-il qu'il y a des points très spécifiques dans la Convention qui fâchent certains, non pas d'autres, et la polarisation, le désaccord se passe autour de ces très petits points, autour de ces détails, et puis on peut espérer que d'ici 10 ans, 5 ans, 20 ans, on ne sait pas, peut-être qu'elle sera ratifiée par les États-Unis un jour, il faudra attendre la prochaine jubilée, il faudra attendre les 40 ans de la Convention. On s'y retrouve.
Peut-être.
Ou la prochaine élection.
Ou la prochaine élection, effectivement.
Ouais, même avec ça, je ne sais pas. Mais on va voir, on va espérer.
Changeons un peu de sujet. Si une famille étrangère vient habiter en Suisse, comment déjà elle peut être mise au courant de ses droits ?
Alors, il y a, quand une famille elle arrive en Suisse, je dirais, je ne suis pas sûre que ça, c'est la première information qu'ils vont recevoir par rapport à leurs droits. Il y a une barrière qui c'est la barrière culturelle, il y a une barrière linguistique souvent que c'est très fort. Et une des premières interventions qu'il faut faire quand une famille étrangère arrive en Suisse, c'est de déterminer quelles possibilités elle a la famille de rester de façon légale dans le pays. Alors c'est plutôt de nature administrative. Après, il y a tout un parcours d'intégration qui va se mettre en place. Et les enfants, normalement, ils le font par la participation, les activités à l'école. Ouais.
Mais comment les enfants qui sont nés dans des pays en guerre peuvent être renvoyés dans leur pays lorsqu'ils, par exemple, arrivent en Suisse ? Comment c'est possible qu'on sait ce qui se passe dans les pays en guerre, il y ait des enfants en bas âge qui soient renvoyés dans leur pays en guerre ?
Toutes les fois qu'il y a des enfants renvoyés, alors je crois, Luca, que tu parles là des mineurs qui arrivent sans leur famille ici. Pas accompagnés ou accompagnés ?
Accompagnés, parce que du coup, ils subissent un peu les choix de leurs parents.
Oui, parce que ça change beaucoup. S'ils sont accompagnés, ils arrivent avec leur famille. L'État, dans le moment où la famille va poser une demande de séjour pour rester légalement en Suisse, la Suisse va vérifier si pour la famille il y a une possibilité, il y a effectivement un risque réel pour leur vie dans les pays d'origine. S'il n'y a pas cette possibilité, les familles sont renvoyées avec les enfants. L'évaluation, je dirais, sur le risque, le niveau de risque dans les pays d'origine, c'est quelque chose qui, malheureusement, on ne fait pas sur la base de critères écrits dans la pierre, je dirais, ou évalués avec... dans les détails, ça a des implications fortement politiques. Je peux juste ajouter un élément par rapport à ça. Je peux te dire par contre que souvent cette évaluation, en particulier quand elle implique des enfants, c'est pas fait en tenant en considération avec attention un principe spécifique qu'il y a dans cette convention, que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Des fois, la décision que les États prennent, fait sur la base des raisons purement politiques, a un impact et des conséquences sur la qualité de vie de les parents, et en particulier de les enfants, très très fort pour leur développement et évolution future.
Et qu'est-ce qui est fait pour l'égalité filles-garçons ?
Nina, ça c'est une question que c'est, ouais, je dirais, ça m'intéresse aussi, mais je me la pose encore aujourd'hui et j'ai passé les 18 ans. Diana, tu penses quoi?
L'intérêt est tout aussi partagé.
Oui. Il y a effectivement, même au niveau de, pour les personnes entre le 0 et le 18 ans, il y a effectivement une différence de traitement entre les filles et les garçons. Et ça, c'est plus évident dans certains pays que dans d'autres, plus dans certaines cultures que dans d'autres cultures. Ce qu'il y a, il y a beaucoup, je dirais, d'attention au niveau international et même national sur une série d'interventions qui essayent d'éliminer cette disparité. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les filles, par exemple, n'ont pas les droits d'aller à l'école. Ils sont automatiquement utilisés dans des activités ménagères, plutôt qu'il y a une réflexion qui ne les amène pas à nécessairement développer leurs compétences et habiletés au mieux dans la vie. Je pourrais te faire la liste des activités, des institutions qui travaillent sur ça. Il y a beaucoup encore de travail à faire.
Merci Lucas et merci Nina pour ces questions extraordinaires et qui sont extrêmement pertinentes. Et merci beaucoup à Roberta Ruggiero, docteur Roberta Ruggiero de l'Université de Genève, son centre interfacultaire des droits de l'enfant, d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. On continue en musique notre émission.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Où t'es? Où t'es?
papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Les enfants ont un mot à vous dire sur Radio Django, en direct du musée historique de la ville de Lausanne. Raconte-moi le droit des enfants, c'est sur Radio Django.
Up.
les enfants ont un mot à vous dire sur Radio Django, en direct du musée historique de la ville de Lausanne.